Chapitre 23. Sir John Spaulding. Le lendemain, dès 3 heures du matin, Corcoran fit reprendre les armes à ses troupes et continua la poursuite. La route était jonchée d'armes, de chevaux et de cavaliers tués ou dépouillés. Presque toute la cavalerie anglaise était détruite ou dispersée. Un petit nombre seulement avait pu rejoindre Spaulding, qui accourait à marche forcée pour accueillir les fuyards. Corcoran, apprenant par ses éclaireurs que les Anglais s'avançaient, se porta sur une colline assez élevée qui dominait la plaine, car il n'avait pas grande confiance dans la bravoure de ses soldats et voulait s'assurer au moins l'avantage du terrain. Il fit même creuser à la hâte un fossé de 10 pieds de large et de 3 pieds de profondeur. Non que cette précaution lui parût très utile, puisque les Anglais n'avaient plus de cavalerie, mais parce qu'il voulait leur faire croire qu'ils se tenaient sur la défensive, et les engager eux-mêmes à prendre l'offensive. Son intérêt était, au contraire, d'en finir promptement avec ce corps d'armée pour courir ensuite sur Barclay et l'accabler à son tour. La ruse réussit admirablement. Sir John Spaulding était un gros gentleman, gras et bien nourri, très brave sans doute, mais qui n'avait jamais fait la guerre et qui n'avait aucune expérience de l'Inde. Sa vie s'était passée en Angleterre, au camp d'Aldershot, à Gibraltar, à Malte, à la Jamaïque. Il avait vu le feu pour la première fois 3 jours auparavant. Toute sa tactique consistait en 3 points. Ébranler l'ennemi avec l'artillerie, le renverser à coups de baïonnette et le faire sabrer par la cavalerie. Par hasard, sa première expérience avait fort bien réussi, de sorte qu'il se regardait comme un Wellington ou un Marlborough. L'ardeur désordonnée de sa cavalerie, qui avait couru sur Bhagavapur sans l'attendre, ne lui causait aucune inquiétude. À chaque pas, on lui amenait des prisonniers. Toute l'armée du Maharaja lui paraissait dispersée sans retour, et l'aurait été en effet sans l'arrivée imprévue et l'attaque impétueuse de Corcoran. Il se berçait lui aussi des illusions qui avaient fait un instant le bonheur de Barclay. Mais avant tout, il fallait entrer le premier dans Bhagavapur. Entre lui et Barclay, c'était une course au clocher. Il ignorait encore le désastre de son rival et l'incendie de son camp. C'est dans ces dispositions que le rencontra le messager qui apportait la funeste nouvelle de l'échec subi par sa cavalerie. D'abord, il n'en voulut rien croire, et comme le messager était hindou, il le fit arrêter, se proposant de le faire fusiller aussitôt que le mensonge serait évident. Puis quelques cavaliers arrivèrent et racontèrent la destruction complète de 3 régiments de cavalerie européenne.
« 3 régiments ? » s'écria Spaulding au comble de la fureur. « Où est l'âne batté qui les commandait ? Où est le colonel Robertson ?»«
Mort, général. »«
Où est le major McFarlane ?»«
Tué d'une balle dans la tête. »
Spaulding se sentait gagné par la consternation générale.
« Vous êtes donc tombé dans une embuscade ? » demanda-t-il. « Il n'y a pas d'exemple d'un désastre pareil !»
Le lieutenant Churchill se fit le récit de l'action.
« Au commencement, dit-il, les marathes fuyaient devant nous comme une volée de perdreaux. Et tout à coup, le Maharaja est arrivé. »«
Le Maharaja !» dit Spaulding, toujours à cheval sur l'étiquette. « Sachez, monsieur, que le gouvernement de la gracieuse reine Victoria n'a pas reconnu de Maharaja dans le pays marathe, et qu'il est par conséquent souverainement impropre d'appeler de ce nom un aventurier quelconque. »
Churchill baissa la tête, puis il acheva son récit. Quand il fut terminé,
« Demain, dit Spaulding, nous nous mettrons en marche à 2 heures du matin. Nous rencontrerons l'ennemi à 6, nous le battrons à 7, et nous reprendrons sur le champ le chemin de Bhagavapur. »
La nuit suivante, à l'heure indiquée, l'infanterie anglaise se remit en marche. 25 ou 30 hussards, qui avaient à grand-peine conservé leurs chevaux, servaient d'éclaireurs. Vers 6 heures du matin, on arriva à 500 pas environ de l'armée marathe, dont une partie était rangée en bataille et l'autre dispersée en tirailleurs. Sir John Spaulding, toujours ferme dans ses idées de tactique militaire, commença le feu en lançant quelques volées de mitraille sur la cavalerie de Corcoran, qui se retira en bon ordre à l'abri d'un petit bois et attendit là l'ordre de charger. L'artillerie marâtre répondit à peine au feu des Anglais, et dès le début de l'engagement se retira dans un pli de terrain comme découragée. Cette artillerie, peu nombreuse d'ailleurs, eut égard au nombre des troupes, paraissait facile à enlever, malgré les broussailles et les obstacles naturels qui défendaient la position.
« C'est le moment d'aborder cette canaille à la baïonnette !» dit Sir John Spaulding.
Prenez garde, s'écria le transfuge ouzbek. Vous ne connaissez pas le Maharaja.
Sir John Spaulding referma sa lunette d'approche, regarda l'Afghan avec un mépris inexprimable et dit
« Ce n'est pas mon habitude de demander conseil. Churchill dit aux Highlanders d'avancer. »
Churchill obéit. Aussitôt on entendit dans la plaine le son des cornemuses et des pibrogues d'Écosse. Les robustes Highlanders aux jambes nues s'avancèrent lentement et en bon ordre, comme à la parade, et commencèrent à escalader la colline où les attendait le gros de l'armée marathe. Un silence terrible régnait sur le champ de bataille. Les deux artilleries se taisaient, l'anglaise ayant fait place à l'infanterie, et la marathe ne paraissant pas encore ou disparaissant déjà. On voyait les sous-officiers anglais maintenant l'alignement avec les crosses de leurs fusils. Quant aux marathes, à demi cachés dans les broussailles et les fourrés, ils attendaient le choc avec une terrible anxiété. Déjà les Highlanders n'étaient plus qu'à 10 pas du fossé creusé sur le penchant de la colline, quand tout à coup, Corcoran tira son sabre et s'écria « Anjou ! Feu !» Au même instant, 1500 marathes couchés à plat ventre se levèrent à demi et fusillèrent à bout portant les assaillants. 2 batteries masquées, de 20 canons chacune, firent feu en même temps à 50 pas de distance sur les flancs et les derrières des Highlanders. En 5 minutes, la colonne fut aux 3/4 détruite. Cependant, ceux qui survivaient s'avancèrent avec une intrépidité admirable jusqu'au fossé, le franchirent, culbutèrent les marathes qui l'occupaient et continuèrent leur marche vers le haut de la colline. Mais là, un nouvel ennemi les attendait. Les artilleurs marathes, qui s'étaient repliés au commencement de la bataille, reprenaient leur poste sur l'ordre de Corcoran. Et de 2 régiments de Highlanders fusillés et mitraillés en face, par derrière et sur les flancs, il ne resta pas 50 hommes valides. Encore furent-ils forcés de se rendre. Pendant ce temps, Sir John Spaulding voyait avec désespoir la destruction de son infanterie d'élite, mais l'ouragan de mitraille qui balayait la plaine et le pied de la colline rendait tout secours impossible. Bientôt même, il dut songer à couvrir la retraite, menacé par Corcoran. Le Maharaja, jugeant la bataille gagnée au centre, donna l'ordre à la cavalerie de se déployer sur le flanc de l'infanterie anglaise et de couper ses lignes de communication. Spaulding, effrayé, commanda la retraite, et les marathes saluèrent cet ordre par de longs cris de joie. C'était la première fois qu'une armée indienne, commandée, il est vrai, par un Français, voyait fuir une armée anglaise à forces égales. Aussi, l'enthousiasme des soldats de Corcoran ne connaissait plus de bornes. « C'est Vishnu, disait-on, c'est le divin Siva, c'est Rama lui-même qui s'est incarné de nouveau pour prendre défense de son peuple contre ces barbares au teint blanc et à la barbe rouge. » Corcoran ne s'arrêta pas pour écouter son éloge. Toujours pressé d'en finir avec Spaulding pour revenir vers Barclay, il lança sa cavalerie sur toutes les routes avec ordre de dépasser l'armée anglaise, d'entasser toutes sortes d'obstacles pour lui rendre la fuite impossible, et de l'éloigner de la Nerbuda pendant qu'il suivait Spaulding de près avec son infanterie et le harcelait avec son artillerie légère. Mais celui qui fuit la mort a toujours plus de chances d'échapper que son ennemi n'en a de la lui donner. Car l'un pense toujours à se sauver, tandis que l'autre ne pense pas toujours à le poursuivre. C'est ce qui arriva dans le cas présent. La cavalerie marathe s'arrêta pour faire reposer ses chevaux, tandis que les Anglais marchèrent toute la nuit dans la direction de la Nerbuda, où les attendait la flottille qui devait combiner ses opérations avec celle de l'armée. Dès le lendemain de bonne heure, Corcoran, que la nécessité de tout ordonner et de tout exécuter par lui-même retardait souvent, reprit lui-même la poursuite et courut sur les traces de l'ennemi. Peine inutile. Spaulding avait rejoint la flottille, et l'embarquement commençait au moment où le Maharaja recommença l'attaque. Les Anglais effrayés abandonnèrent sur le rivage un immense butin, presque tous leurs blessés, 1500 prisonniers et tous les traîtres qui s'étaient joints à eux quelques jours auparavant, entre autres l'Afghan ouzbek. Puis ils descendirent la Nerbuda, laissant leur général blessé à mort sur le champ de bataille au moment même où il allait s'embarquer. Un boulet de canon lui avait emporté la tête. « Pauvre gentleman, » dit Corcoran en retrouvant son corps mutilé. « Ce n'était ni un César ni un Hannibal, mais c'était un brave homme, et il a bien fait, ne pouvant pas sauver son armée, de se faire tuer lui-même. Car il n'y a rien d'aussi piteux et d'aussi déshonorant que de perdre la bataille de Cannes et de survivre. » Puis il se fit amener les prisonniers et traita les Anglais avec beaucoup de générosité. Quant aux traîtres qui l'avaient abandonné, il ne voulut pas leur faire grâce. « Pourquoi m'as-tu trahi ? » demanda-t-il à Ouzbek.
Grâce, seigneur Maharaja, s'écria l'Afghan.
Qu'on le fusille, dit Corcoran.
Et il traita de la même manière 9 autres zémindars qui avaient suivi l'exemple d'Ouzbek. Plus le traître est haut placé, dit-il,
plus la rigueur est nécessaire. Ces exemples donnés, il laissa le commandement de l'armée à l'un de ses lieutenants et reprit en toute hâte le chemin de Bhagavapur, car partout où il n'était pas, ses affaires allaient toujours mal. Louison et Garamagriffe, qui l'avaient si bien servi, obtinrent la permission de le suivre.